Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h23 sur RTL. Bonjour Rebecca Amsalem.
Bonjour.
Vous êtes docteur en économie, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. C'est une lettre d'info pour les femmes. Bonjour Bénédicte Ravache.
Bonjour.
Secrétaire général de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Merci l'une et l'autre d'être avec nous ce matin en direct sur notre antenne. L'égalité salariale est-elle possible, Bénédicte Ravache? Je vous pose la question.
Bien sûr, elle est possible, elle est souhaitable, mais c'est un sujet complexe parce que ça touche un nombre incroyable de salariés et que ça renvoie à un sujet de société qui est l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
Excusez-moi, mais j'en parle depuis que je suis journaliste, c'est-à-dire depuis que j'en m'a attribué ma carte de presse, et j'ai l'impression que ça a peu évolué. Pourtant, maintenant, ça commence à faire un bout de temps. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que ça bouge quand même un peu? Et si oui, dans quelle proportion?
Alors, c'est un mal français de penser que les choses sont parfois négatives. Nous sommes convaincus que les choses avancent. Nous sommes convaincus aussi que ce sont des sujets qui mobilisent en fait des process longs et que comme tous ces sujets-là, on ne voit pas d'évolution entre 3 à 5 ans. Il faut absolument rentrer dans le détail de ce qui se fait non seulement dans les grandes organisations mais aussi dans les petites. Et nous, ce dont on est absolument convaincu, c'est que les bonnes pratiques sont de plus en plus nombreuses et qu'elles sont de plus en plus partagées.
Les femmes, n'en reste pas moins que les femmes touchent en moyenne 25% de moins que les hommes, tout temps de travail confondu. Comment vous expliquez ça, vous ?
On peut expliquer cette stagnation par le fait qu'il y a peu de choses qui ont été mises en place par les pouvoirs publics. Il n'y a pas eu de réaction extrêmement forte des pouvoirs publics. Et puis aussi, on peut voir de la part des entreprises que ils sont assez réticents, finalement, à mettre en place cette égalité. Pourquoi ? Parce que ça leur coûte cher. On peut prendre l'exemple de Google, par exemple, hier, qui refusait de donner les fiches de paie de ses salariés au secrétariat d'État américain parce que ça lui coûterait trop cher.
Je reviens vers vous, Bénédicte Ravache. Imaginons qu'on ait une décision autoritaire. Est-ce que ça veut dire qu'on plombe du jour au lendemain l'économie de nos entreprises ?
Alors non, d'abord parce qu'il y a des décisions qui existent déjà. On a une obligation pour les entreprises de négocier la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a des données très précises à fournir, notamment aux organisations syndicales, pour faire une évaluation des écarts et en rendre raison.
Ça, c'est une photographie.
C'est une photographie, mais dont on doit rendre raison. Et vous avez un certain nombre de grands groupes qui ont dont les pratiques sont connues, puisqu'il y en a d'autres mais qui sont moins connues, qui peuvent s'appeler, alors on va faire du name positif pour le coup, qui s'appelle AXA, qui s'appelle EDF, qui s'appelle Société Générale, qui ont des mesures qui ont été négociées avec les organisations syndicales et qui donc dégagent des enveloppes significatives pour gérer la réduction de ces écarts. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça a un coût, mais quand c'est une politique, ça se met en place.
Vous êtes convaincue, Rebecca Amsalem ?
Je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Je pense que, effectivement, pour arriver à cette égalité salariale, il faut que les femmes demandent des augmentations de salaire, parce que finalement, quand on ne demande pas une augmentation de salaire, on l'a pas.
On ne l'obtient pas, oui.
Et puis, c'est simple. Il faut demander à ses collègues masculins quels sont leurs salaires, pour voir si effectivement il y a une différence. Et puis après, il faut qu'un engagement plus significatif de la part des pouvoirs publics.
Comment ? Parce que vous nous dites finalement c'est le rôle du pouvoir public de le faire. J'allais dire, sous quelle forme ?
Il y a plusieurs formes. On voit par exemple que l'Angleterre a décidé de mettre en place le Name and Shame qui va être applicable dès 2018.
Donc, vous rappelez ce dont il s'agit pour nos auditeurs ?
Il s'agit d'une liste des entreprises qui ne respectent pas cette égalité salariale et donc c'est pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés.
Oui.
Donc on va voir si ça fonctionne en Angleterre. Oui. Et puis on peut aussi faire comme en Islande, et là je pense que c'est une mesure qui est contraignante et qui est très intéressante, à savoir que c'est aux entreprises elles-mêmes de montrer qu'elles ont une égalité salariale au sein de leur entreprise, pour toutes les entreprises de plus de 25 salariés. Et en échange de quoi, elles reçoivent un certificat d'égalité. Donc c'est pour le genre, effectivement, égalité femmes-hommes, mais également pour les orientations sexuelles ou les origines.
Alors ce que nous explique Rebecca Amsalem, Bénédicte Ravache, c'est finalement qu'on peut avoir des mesures qui touchent à l'image de nos entreprises.
Oui, tout à fait, parce que les entreprises sont très
dépendantes. Pour les rendre vertueuses, en
quelque sorte. Voilà, sont très dépendantes de leur image. Nous, on n'est pas convaincus que c'est le name and shame qui a le plus d'effet. On pense que c'est au contraire le fait de montrer que des solutions pratiques existent et sont possibles. C'est le cas dans la plupart des processus de lutte contre les discriminations, de montrer qu'il n'y a pas d'impossible et qu'il y a des choses très simples à mettre en place. Donc il ne faut pas perdre de vue ça. Nous, la bonne nouvelle qu'on trouve dans le contexte actuel, c'est que le premier lieu qui doit être exemplaire, c'est la représentation nationale. C'est difficile de demander à l'État d'être contraignant et de proposer de nouvelles contraintes pour les entreprises. si l'Assemblée nationale ne comporte pas 50% de femmes, s'il n'y a pas un débat public respectueux des hommes et des femmes. Et donc, a priori, c'est long, on le voit. Hein, et
vous avez raison, mais c'est facile à faire parce que c'est remettre entre les mains de nos députés une responsabilité qui n'est pas initialement la leur et qui est celle des entreprises, qui ne pratiquent pas l'égalité salariale.
Je ne suis pas sûre que ce soit...
C'est habile, mais ce n'est pas tout à fait convaincant.
Alors, on ne peut pas dire que... Je ne peux pas laisser dire que les entreprises n'ont pas de politique de discrimination entre les hommes et les femmes. Ce que l'on voit, c'est que c'est compliqué de comprendre les écarts, en fait. Hein, parce qu'il faut vraiment rentrer dans des calculs parfois très savants pour pouvoir expliquer pourquoi, sur une carrière ou sur une population, on se retrouve avec des écarts qu'on n'arrive pas à expliquer.
On va être concret. Aujourd'hui, aux nouvelles embauches, je dis bien aux nouvelles embauches, est-ce qu'il y a encore un écart de salaire entre les hommes et les femmes qui sont engagés ? Les jeunes gens qui sont engagés, jeunes gens et jeunes filles.
En tout cas, la société ne l'accepte plus, et c'est une bonne nouvelle, et il n'y a pas de société qui peuvent se permettre d'afficher ce type de dispositif. Il y a encore des différences sur les diplômes, par exemple, donc il faut s'assurer qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes, par exemple, qui vont chercher des diplômes qui justifient des bonnes rémunérations. Il faut qu'elles aient le réflexe de le demander. Il faut qu'elles aient justement cette assertivité et cette confiance en elles que toute l'école doit développer, que toute la société doit développer, mais il n'y a plus de structures qui peuvent se permettre et le souhaiter, parce que les femmes sont des talents dont on ne peut pas se priver.
Oui, sauf que vous ne pouvez pas remettre la responsabilité des femmes ne peut pas être a priori mise en cause dans leur capacité à se faire payer plus si on leur propose des premiers salaires qui ne le sont pas. Enfin, je sais pas si...
Oui, je pense qu'il faut arrêter de blâmer les femmes pour ces inégalités. Je pense qu'il faut blâmer le système dans lequel on est qui fait qu'elles sont payées moins que les hommes. On a tendance à dire que les femmes sont payées moins parce qu'elles font le choix davantage de leur foyer et donc du coup qu'elles sont moins concentrées sur leur travail, alors que c'est pas le cas.
Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire de l'égalité homme-femme une cause nationale. Est-ce que ça vous donne de l'espoir et est-ce que vous pensez que ça peut changer quoi que ce soit ? Ce sera ma dernière question. Rebecca Amsalem.
On espère qu'effectivement il y aura un certain nombre de mesures qui seront mises en place par les pouvoirs publics pour arriver à cette égalité salariale. Si jamais on ne fait rien, on doit attendre 2186. L'Islande a décidé de mettre fin aux égalités salariales dans 5 ans. En 2022, c'est leur objectif. On espère que ce sera le même objectif pour Emmanuel Macron.
Et je rappelle que vous étiez venu nous voir le 7 novembre dernier et vous nous annonciez qu'à partir du 7 novembre, donc 2016 à 16h34, précisément, les femmes travaillaient bénévolement en mettant en équation le rapport de leur salaire avec les hommes. Merci infiniment, Bénédicte Ravache, Rebecca Amsalem, d'être venu nous voir. Vous continuez de réagir à ces questions salariales. Nous attendons vos réactions au 3210 et vous serez peut-être partie de ceux qui interviendront dans RTL Midi à partir de 12h30.